France Info.
Et à la une ce matin, donc, ce triste anniversaire. 4 ans de guerre en Ukraine et des combats qui se poursuivent, notamment à l'aide de drones. Les Russes parviennent à contourner les brouillages électroniques. France Info, reportage sur le front. L'ambassadeur américain en France ne peut plus accéder directement aux membres du gouvernement français. Mesure de rétorsion de Paris. Charles Kushner a ignoré une convocation du ministre des Affaires étrangères. France Info vous dévoile aussi le dernier rapport de l'organisation étudiante, la FAGE. Un tiers des étudiants mal logés dans notre pays. Et puis nous vivrons le retour de la flamme à Albertville, la flamme olympique de retour alors que se préparent les prochains Jeux d'hiver dans les Alpes. 4 ans de bombes, 4 ans de missiles, 4 ans de drones. Le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine et espérait conquérir rapidement le pays. Mais 4 ans plus tard, la guerre dure toujours. Le bilan est déjà extrêmement lourd. Jusqu'à 1 700 000 soldats russes et ukrainiens tués, selon une estimation du Center for Strategic and International Studies. Puis il y a bien sûr les civils tués et blessés, mais l'Ukraine continue de tenir. Le réseau américain Starlink a coupé son accès aux terminaux utilisés par les Russes, mais de nouvelles tactiques émergent pour contourner ces blocages des drones. Un soldat d'Izium vous a confié ses craintes, Claude Guibal.
Il est planté dans la neige comme insensible au froid. On est à Izium, la porte du Donbass, et pendant qu'on lui parle, on entend régulièrement les explosions.
C'est quelque part dans le coin.
Il donne son nom de code, Wi-Fi, il est artilleur. Pour lui, dit-il, ce qui devient désormais très dangereux, ce sont les trajets qu'il faut faire pour rejoindre sa position de combat. Sa hantise porte un nom, l'Ijdoun.
Le drone Jdoun, il s'installe au bord de la route, il a une fibre optique et il attend. Nous, une fois, on avait quitté notre position et on en a aperçu un posé sur le bas-côté. On a sauté hors de la voiture, on a vidé nos chargeurs sur lui, il n'a pas eu le temps de nous attaquer. Un deuxième drone a vu ça et s'est dirigé vers nous. Heureusement, lui a été pris dans le filet anti-drone et il a explosé. Un bon gros coup d'adrénaline.
Ces fameux Jdoun, ce sont des drones d'attaque reliés à leur opérateur grâce à des fibres optiques fines comme des cheveux, longues parfois de 30 km. Un système filaire qui les rend totalement insensibles au brouillage. Contre les Jdoun, le blocage de Starlink ne sert à rien. Une arme redoutable.
Claude Guibal, envoyé spécial de France Info en Ukraine. Cette guerre se poursuit et les négociations patinent. Dans un entretien donné à la chaîne américaine CNN, le président ukrainien affirme que le chef d'État américain ne fait pas suffisamment pression sur le président russe pour mettre fin à la guerre. Une réunion de la coalition des volontaires, les pays qui se placent aux côtés de l'Ukraine, est prévue dans la journée. Il était convoqué par la diplomatie française et il n'est tout simplement pas venu. Charles Kushner, l'ambassadeur américain à Paris, n'a pas répondu à la convocation du ministère des Affaires étrangères. La diplomatie française voulait une discussion après les propos de l'ambassadeur. Sur X, il avait dénoncé la violence politique d'extrême gauche en France et avait appelé à traduire les responsables en justice après la mort de Quentin Derenc à Lyon. Le ministre des Affaires étrangères a donc demandé à ce que Charles Kushner ne puisse plus accéder directement aux membres du gouvernement français tout en l'invitant au dialogue, Sandrine Etouandeg.
Le ministère français des Affaires étrangères invite Charles Kushner à, je cite, « des échanges diplomatiques pour aplanir les irritants ». En d'autres termes, un dialogue constructif pour résoudre les points de friction. Tout est parti d'un tweet publié vendredi dernier, le 20 février, sur le compte X de l'ambassade américaine à Paris, qui reprend en français un communiqué du département d'État américain. Dans ce poste, il est écrit, je cite, que « l'extrémisme violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin Derenc démontre la menace qu'il représente pour l'ordre public ». Une forme d'ingérence qui a vivement irrité donc Jean-Noël Barrot. Nous refusons toute instrumentalisation de ce drame à des fins politiques, a réagi dimanche le ministre français des Affaires étrangères, en soulignant que la France n'avait, je cite, aucune leçon s'agissant de la violence, en particulier à recevoir de l'international réactionnaire. Il a donc convoqué l'ambassadeur Charles Kushner, mais c'est un responsable de l'ambassade américaine qui s'est présenté au Quai d'Orsay à la place du père du gendre de Donald Trump.
Sandrine et toi, Andegue, et tout à l'heure, à 10h, une réunion va se tenir à l'Élysée en présence, entre autres, des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Réunion sur les groupuscules d'ultra-droite et d'ultra-gauche. Le chef de l'État veut faire le point sur les mesures déjà prises et les procédures de dissolution des groupes en cours. Et alors que deux enquêtes ont été ouvertes à Lyon après les saluts nazis vus dans la marche en mémoire de Quentin Derenck le week-end dernier, la famille du militant nationaliste dénonce la récupération politique et les débordements racistes dans cette manifestation. Le pronostic vital d'un joueur de rugby de 23 ans engagé à Sévrac en Aveyron. Il a reçu un violent coup de poing à la tempe pendant un match de championnat. Le joueur qui a porté le coup a été placé en garde à vue, indique le procureur de Rodez. Arrêté hier soir, il vient d'être libéré sous caution. L'ancien ministre britannique Peter Mandelson a été interrogé dans le cadre d'une enquête liée à l'affaire Epstein. Il est soupçonné d'avoir transmis des informations financières sensibles au pédocriminel Jeffrey Epstein alors qu'il était secrétaire au commerce. France Info, il est 5h06, ce n'est clairement pas l'appartement de leurs rêves. Avec des moisissures apparentes, des cafards, des dégâts des eaux non traitées, un tiers des étudiants vivent dans ce type de conditions. Selon la dernière enquête de l'organisation étudiante Lafarge, les chambres subventionnées par le Crous ne sont pas assez nombreuses. Ils sont donc beaucoup à se loger dans le parc privé qui est plus cher, 491 euros en moyenne en France, 712 euros à Paris. L'accès au logement est l'un des principaux facteurs de précarité étudiante. Noémie Bonin, vous avez pu le constater dans l'appartement d'une étudiante en banlieue parisienne.
Bonjour.
Nous voici chez Laura, étudiante en master de littérature.
C'est un appartement de 18 mètres carrés. Du coup, là, on arrive dans la petite salle de bain.
L'humidité est omniprésente dans ce studio.
Les gens là sont noirs, tout pourri en fait concrètement. J'ai des livres qui pourrissent aussi juste ici. Pareil, tout ce qui est en bois, c'est pas du tout possible. Là, typiquement, j'ai des spatules qui ont pourri.
Pour ces problèmes, Laura a sollicité son agence immobilière qui n'a pas donné suite. Depuis qu'elle habite ici, la jeune femme a de nouveau des crises d'asthme et a découvert aussi quelques visiteurs.
J'ai retrouvé un cafard à côté de mon lit en pleine nuit. Dans la salle de bain aussi, un peu dans le salon. Mais c'est un peu triste à dire, mais on s'habitue.
Vous, comment vous vous sentez dans cet appartement ?
Quand c'est le premier chez soi, on s'imagine plein de trucs, etc. Et puis, on tombe de haut quand même. Clairement, c'est dans l'imaginaire collectif. Ah, les étudiants, bah, ils sont pauvres et bah, du coup, ils vivent dans la misère. Moi, enfin, je me suis dit, maintenant, je ne serai pas cette personne-là parce que je vais travailler beaucoup. Puis en fait, bah, si.
Malgré tout, Laura n'a pas le projet de quitter cet appartement tout de suite, qu'elle paye 630 euros par mois. Elle a eu déjà beaucoup de mal à le trouver. Non boursière, elle craint de ne pas avoir mieux pour ce prix-là.
France Info reportage de Noémie Bonin. 10 000 soldats déployés au Mexique pour tenter d'endiguer les violences en cours dans une grande partie du pays. Violences qui font suite à l'élimination d'El Mancho, le chef de l'un des plus grands cartels du pays, un baron de la drogue. L'annonce de sa mort a provoqué une violente réaction des membres de l'organisation qui ont attaqué des banques, des commerces et ont affronté les autorités. Cela faisait 34 ans que la région attendait ça. Les Jeux Olympiques de retour à Albertville, en Savoie, soirée festive hier. Les athlètes des Jeux de Milan Cortina qui viennent de finir sont venus à Albertville pour célébrer les médailles françaises. Des milliers de spectateurs étaient présents et le drapeau olympique a de nouveau flotté dans la ville puisque les Alpes vont accueillir les prochains Jeux d'hiver en 2030. Jérôme Val.
C'est un symbole qui a repris vie. Le mât d'Albertville, planté au cœur du parc olympique, l'emblème de la cité savoyarde, porte de nouveau le drapeau blanc aux cinq anneaux olympiques.
Beaucoup de fierté en tant qu'albervilloise.
Emmanuel est venu en famille assister à cette cérémonie en son et lumière.
Puis ben, un retour aux sources et ça fait plaisir de voir un rassemblement d'autant de personnes. C'est très beau.
C'est beaucoup de fierté ouais, d'être albervillois, d'être savoyard et puis de réutiliser aussi ce qui a été fait en 92.
34 ans après, voilà le drapeau de retour. Un bond en arrière pour Max, un volontaire qui revient des Jeux de Milan Cortina.
J'étais un petit peu plus jeune. Mais c'est sûr que ça fait des émotions. J'ai porté aussi la flamme pour les Jeux de 24. Tout s'accumulait, beaucoup d'émotions.
2030, si loin, si proche, mais déjà de l'impatience pour cette supportrice venue de l'Allier.
Ça mobilise des gens pendant 4 ans et on pense aussi aux athlètes qui travaillent pendant 4 ans pour une minute de course. Quoi. Ça fait vibrer.
Un drapeau en guise de lancement officiel des Jeux de 2030. Une journée de répit aussi pour un dossier à la gestion. gestion décriée.
Il vaut mieux pas être au courant de tout, voilà, bon courage.
Moi je garde l'esprit des jeux et toutes ces guerres un peu internes ne m'intéressent pas.
En somme, ne pas céder aux persifleurs de ce projet, comme l'a dénoncé Sébastien Lecornu en visite à Albertville.
Le Premier ministre qui affiche son optimisme malgré une crise de gouvernance au sein du comité d'organisation. Et puis ce soir, il y a du foot, de la Ligue des Champions avec les matchs de barrage retour, avec notamment dès 18h45 l'Atlético Madrid contre Bruges. Et Christine Peña, vous êtes avec nous pour la météo à 5h10. Vous nous dites que l'amélioration se poursuit.
Mais oui, elle se poursuit. Les nuages sont de moins en moins nombreux. Le soleil s'impose même à l'ouest, hein, surtout du côté de la Bretagne, Cotentin. Vous aurez une belle différence avec cet après-midi, vous allez voir. Les dernières pluies s'évacuent par le nord-est. Paris restera sous la grisaille, mais le soleil sera là en fin de journée. Et puis les températures grimpent de plus en plus haut, de 14 à Strasbourg, à 25 à Pau, au pied des Pyrénées.
Merci beaucoup Christine Peña.